Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour.
Comment faire plus court que votre présentation en quatrième de couverture du livre dont nous allons parler maintenant ? Homme politique et écrivain, Bruno Le Maire a été ministre de l'économie et des finances de 2017 à 2024. Ça fait 19 mots. Alors j'ajouterai quand même, parce qu'on est dans une période où il est beaucoup question de records, et en particulier de nos footballeurs, que vous êtes titulaire, je crois, de deux records ministériels. Non pas la plus grande longévité à l'économie et aux finances, parce qu'en cumulé, c'est Valéry Giscard d'Estaing, plus de 9 ans. Enfin, il y a eu des trous. Vous, c'est, si j'ai bien compté, 7 ans, 4 mois et 4 jours. De 2017 à l'expédition, comme vous le dites dans le livre, des affaires courantes jusqu'en 24. Le plus bref séjour aussi, comme ministre, au ministère des Armées. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compté, mais en vous lisant, j'ai compté 22h30.
Là, vous êtes généreux, c'est 12h.
Ah bon, vous voyez. Oui, bah, par rapport au décret, j'imagine. Ouais. Dans une forme de préface intitulée « Prélude 2025 », vous nous racontez quatre histoires qui se sont déroulées à quatre endroits différents, Chamonix, Paris, Dax et Anchorage. Et c'est une personne que vous rencontrez à la feria de Dax, dans une crêperie, qui vous dit, crêperie j'imagine un peu provisoire, « De toute façon, on a compris, vous décidez plus rien ». Et vous dites « La décision est l'essence de la politique ». Elle est devenue le talon d'Achille des démocraties. Je n'écris pas pour témoigner, mais pour agir autrement. Si je parviens à mieux faire comprendre qui décide dans le monde où nous sommes, viendra le moment de répondre à une autre question tout aussi difficile. Que décider ? Ce qui amène une dernière interrogation. Comment ? Alors ma première question est la suivante. Poursuivre le combat politique comme vous le faites en écrivant un livre de 300 pages. Face à des adversaires ou des concurrents qui mobilisent 280 caractères pour un post sur X ou qui considèrent qu'une story sur Insta, c'est déjà quasiment la Pléiade. Et en voulant s'adresser à une population qui lit de moins en moins, n'est-ce pas aussi désuet que l'usage du MAS 36 contre les Stuka allemands lors de la débâcle de 40 ?
Alors je crois au contraire que c'est très moderne. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de venir m'écouter ce soir. Je suis à la canicule dans cet endroit bien climatisé. Je pense qu'il ne faut jamais chercher la modernité pour la modernité. Alors, je vous rassure, hein, j'utilise Instagram, les réseaux sociaux, les tweets. J'utilise très régulièrement l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou Mistral. Mais je considère que la lecture, la littérature, la langue française, c'est un des combats les plus importants que nous avons devant nous. Et donc ce combat, je le livre. Je sais bien que c'est difficile, que les livres se vendent moins bien, qu'il y a moins de lecteurs. Mais je considère qu'il n'est pas perdu. Et que livrer le combat pour la langue française, c'est livrer le combat pour la nation française, pour l'unité des gens, pour la capacité à échanger entre nous, à trouver les mots justes, de parler à la personne qu'on aime, à la personne qui souffre, à la personne qui est son voisin avec qui on a envie d'ouvrir la conversation, de commencer une relation. Et je considère également que la meilleure façon de comprendre le pouvoir, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est pas uniquement le tweet ou l'émission de télévision ou le reportage, c'est aussi le récit. Et donc ce livre, c'est vrai que c'est un récit des rencontres avec Trump, avec Xi Jinping, comment ça se passe le pouvoir, les détails, comment chacun est habillé, comment chacun se comporte, les gestes. Ça s'inscrit dans une longue tradition littéraire française qui va de Saint-Simon à Chateaubriand et à d'autres auteurs. Et je pense qu'il est indispensable de livrer ce combat pour cette tradition littéraire française, quitte à la réinventer et quitte à livrer un combat qui peut paraître d'arrière-garde, mais qui pour moi est très moderne, qui est le combat pour la lecture.
Alors, effectivement, on vous connaît comme un auteur, chroniqueur, un véritable, j'allais dire, observateur participant, et vous nous faites profiter, grâce à votre plume, qui est, effectivement, pour le coup, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi précise, vous nous faites profiter d'un sens du portrait que vous possédez réellement. Je cite par exemple, il y en a beaucoup, hein, mais vous évoquez Mohamed Ben Salman, bon, MBS, on connaît, j'allais dire, ses états de service. Et c'est l'occasion pour vous d'une forme d'introspection, celle d'une personnalité politique occidentale, celle que vous êtes. Je vous lis, voici venu l'aube des années carnivores, selon l'expression utilisée par la poétesse Anna Akhmatova au sujet de l'Union soviétique, où chacun dévore l'autre. Quand on connaît ce qu'a fait Ben Salman. Et plus loin, pourquoi voudrions-nous que ceux qui ont recueilli la puissance que nous avons abandonnée se comportent différemment? Que nous manque-t-il pour comprendre cette évidence? Et vous terminez plus loin, plus difficile à digérer pour les estomacs européens, le plus difficile à croire, c'est l'abandon américain. Et vous dites d'ailleurs, mais d'ailleurs, qu'est-ce que les Européens ont pu y faire?
Alors, je vais reprendre l'exemple de Mohamed Ben Salman parce qu'il traduit bien l'exercice du livre, qui est un exercice à la fois de description des personnages, vous faire rentrer vraiment dans ce que c'est que l'intimité du pouvoir. Et puis, c'est aussi une réflexion sur les temps dans lesquels nous sommes. La réflexion dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est que c'est effectivement une ère de brutalité pas possible. Et je raconte cet entretien avec Mohamed Ben Salman alors qu'on vient quelques mois avant d'apprendre qu'il avait fait découper à la scie sauteuse un de ses adversaires dans un consulat à Istanbul. Et on sait, on a les indications que ça a été fait sur ordre de Mohamed Ben Salman. Mais dans le même temps, votre fonction de ministre des Finances vous oblige à le rencontrer et à négocier avec lui des contrats pour les Français en Arabie Saoudite. Donc c'est un moment assez vertigineux de vous retrouver face à face avec une personne dont vous dites... Il a fait assassiner un de ses opposants, il a fait assassiner un journaliste, et pourtant, je dois le rencontrer, je dois discuter avec lui. Et le nouvel ordre mondial, c'est ça. Si vous ne discutez plus avec les personnes qui font preuve de brutalité dans la conduite des affaires, ben vous allez finir très vite par discuter avec vous tout seul. Et la deuxième chose, c'est de bien faire comprendre à la personne qui lit ce livre qu'elle a le sentiment d'être assise elle-même en face de Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Donc si vous voyez l'image de Mohamed Ben Salman à la télévision, sur une émission ou dans un journal, vous verrez un homme dont vous ne savez pas très bien s'il est grand ou pas, qui a son keffieh, une barbe et qui ressemble à un dirigeant saoudien.
Et qui est plutôt souriant.
Mais dans le livre, j'essaye de traduire tous les détails qu'on ne voit pas à la télévision. D'abord, le fait que cet homme d'État est bourré de tics et que quand vous êtes en face de lui, il a un mouvement de tête très particulier en permanence. Ça, vous ne le voyez pas lorsque vous regardez le journal ou que vous lisez un magazine. Le fait qu'il est manucuré, les doigts très soignés, les mains très soignées, vous ne le voyez pas. Le fait qu'il est très charnel et quand vous lui serrez la main, vous avez l'impression d'une main extraordinairement charnelle. Vous ne le voyez pas à la télévision. Le fait qu'il est lourdement parfumé, vous ne le voyez pas. Le fait qu'il a beaucoup de charme, qu'il est très souriant, qu'il vous enjôle, et qu'au moment même où vous dites ce gars-là a fait assassiner un journaliste dans un consulat à Istanbul, et le journaliste est reparti dans une caisse découpée en morceaux, il est en même temps extraordinairement doux. Et c'est ça que je veux faire comprendre, et que jamais aucun film, aucun magazine ne vous permettra de comprendre. Alors, de la même manière, quand je décris Vladimir Poutine...
Justement, je vous interromps, cher Bruno Le Maire, parce que justement, là, pour le coup, vous posez la question, vous dites, en quoi serait Vladimir Poutine? Personne ne sait. En despote, en ogre, en Pierre le Grand, en Staline, en perturbateur, sa méthode est un mélange d'intimidation, de violence, de calcul froid et de provocation. Son pouvoir sointe l'argent et l'assassinat sur commande. Il est indifférent à la mort des autres. Son Rubicon est la guerre. Il a été franchi depuis longtemps.
Je pense que c'est la description assez rigoureuse.
Comment vous expliquez la fascination qu'il peut exercer, y compris sur un certain nombre de personnalités politiques occidentales?
Parce qu'il y a toujours eu en Occident et toujours eu en France une fascination pour le despote. Fascination pour, alors, elle n'est pas universellement répandue, Dieu soit loué, mais une fascination pour le pouvoir brut, qui n'est pas ce qui se pratique en France. Donc, comme ça n'est pas nous, on est fasciné par ce qui n'est pas nous. Et il y a effectivement en France tout un courant de pensée qui est fasciné par Vladimir Poutine, fasciné par la puissance russe, fasciné par le dirigeant russe. Moi, je ne partage pas du tout cette fascination. J'ai toujours considéré Vladimir Poutine, que j'ai rencontré à de multiples reprises, comme un homme des services secrets, sans aucune limite, dangereux, dont la conduite du pays est un mélange de narratif impérial et de mafia. Donc le narratif impérial, c'est pour redonner de la fierté au peuple russe, et la mafia, c'est pour prendre le contrôle de l'argent et des ressources naturelles du pays. Et on retrouve les deux niveaux de réflexion qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire la réflexion géopolitique. Oui, aujourd'hui, Vladimir Poutine est une menace pour l'Europe. Il a agressé l'Ukraine et il faut que nous soyons prêts à faire face à cette menace. Et une réflexion, une description plus humaine de ce que c'est qu'avoir Vladimir Poutine en face de soi. C'est un homme qui arrive toujours avec 2 heures, 3 heures, 4 heures de retard. Ça, vous ne pouvez pas le voir dans le magazine. Dans le magazine, à la télévision, dans un reportage, vous aurez Vladimir Poutine parce que vous avez appuyé sur le bouton ou que vous avez ouvert votre journal. Mais il faut comprendre que voir Vladimir Poutine, c'est d'abord attendre Vladimir Poutine. Et que l'attente est une forme du pouvoir.
On dit qu'Emmanuel Macron n'est pas très ponctuel.
Oui, mais pas dans des proportions qui peuvent être celles de 2 heures, 3 heures. Mohamed Ben Salman, ça peut être plusieurs jours. Vous pouvez arriver à Riyad, avoir un rendez-vous avec Mohamed Ben Salman le jeudi, et vous aurez rendez-vous le dimanche. Et si vous osez mettre la moindre protestation, ben, vous n'aurez pas votre rendez-vous. Vladimir Poutine, vous pouvez avoir rendez-vous à 19h le soir, il vous reçoit à 2h du matin. Et rien que cette attente est une expression du pouvoir et une manière de déstabiliser son interlocuteur. Et quand il arrive, il est précédé par une cohorte d'officiers de sécurité, tous aussi massifs les uns que les autres, et vous voyez arriver au milieu de cette cohorte d'officiers de sécurité qui sont tous immenses et extrêmement baraqués, un tout petit homme, parce qu'il est tout petit. Et c'est ça que je veux vous faire voir, rencontrer, comprendre. Ensuite, il s'assied et il a l'air très gentil. Une espèce de renard avec un regard un peu des steppes. Mais il parle avec une voix très douce. Il a quelques cheveux sur le crâne. On entend à peine ce qu'il dit. L'interprète a du mal à traduire ce qu'il dit. Donc, ça n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Vladimir Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui est très brutal, qui parle haut et fort. Non, c'est une toute petite chose qui parle tout doucement et qui, en même temps, sacrifie 35 000 jeunes par mois dans la guerre contre l'Ukraine. Et je veux que mes lecteurs comprennent cela et voient cela et touchent cela du doigt.
Alors, votre science du récit, effectivement, nous fait complètement entrer dedans, mais c'est aussi nourri par, évidemment, votre culture générale, et en particulier vos connaissances de l'histoire, l'histoire contemporaine. Vous faites en particulier, à la fin d'un chapitre, une comparaison entre le trio actuel Trump, Xi et Poutine, et Wilson, Lloyd George et Clémenceau, qui sont les trois figures de la victoire de 1918 et que l'on voit évidemment le 28 juin 1919 à la signature du traité de Versailles. On les a vus tout le temps. Et vous dites qu'il est temps, et au-delà de l'incantation, vous dites qu'il est temps de sonner le réveil européen. Ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, vous proposez, parce qu'il y a une dimension de proposition, et en particulier, j'ai noté, vous êtes pour revenir à une Europe à 6. Mais ce n'est pas les 6 qu'on a connus le 25 mars 57. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Évidemment, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne. Voilà. C'est quoi? Vous refaites l'Europe?
D'abord, je pars de l'histoire qui est très présente dans tout ce récit, parce que ça permet de comprendre là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'il a échappé à personne dans cette pièce que l'Europe est totalement déclassée du point de vue stratégique. Et que ce soit sur la question iranienne, sur la question de Taïwan, sur les grands enjeux géopolitiques, elle n'est même plus autour de la table. Et donc, j'essaye de voir déjà ce qui s'est passé, de mesurer. Je prends mon maître d'historien, ou mon maître d'écrivain, ou mon maître de responsable politique, comme vous voulez, je mesure. 1918, autour de la table, vous avez le président du Conseil français, vous avez le Premier ministre britannique et vous avez le président américain.
Mais ça commence à se gâter un peu. Hein.
Ils sont autour de la table.
Ouais, mais il y en a un qui met le pied dans la porte. Là, quand même.
Oui, mais ceux qui dirigent, ce sont les Européens et les Américains. 100 ans plus tard, ce n'est pas 1000 ans plus tard. 100 ans plus tard, vous avez autour de la table Xi Jinping, Vladimir Poutine, Donald Trump, mais vous n'avez pas un seul dirigeant européen. Et si vous aviez un dirigeant européen, ça ferait presque bizarre. Vous diriez, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même rapport de force. Donc à partir de là, je me pose une question toute simple. Est-ce que nous acceptons ce déclassement ? Ou est-ce que nous voulons, face à la Chine et face aux États-Unis, trouver notre place ? Et je préfère être très cash et très direct, et je le serai de plus en plus dans les mois qui viennent. Ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Italie ne reprendront cette place seule. Ça n'existe pas. J'ai fait un nombre innombrable de déplacements avec des présidents de la République différents en Chine. J'ai vu comment un président français est traité par Xi Jinping. Il est bien traité. Monsieur Xi Jinping sait traiter correctement et courtoisement ses interlocuteurs, mais il ne le considère pas comme jouant dans la cour des grands sur la scène internationale. C'est comme ça. Et s'ils veulent imposer des intérêts économiques, des intérêts financiers, des intérêts politiques, ils les imposent. S'ils veulent exporter leurs voitures vers le marché européen et tuer l'industrie automobile européenne, si la France est toute seule, elle ne pourra pas résister. Donc la proposition effectivement que je fais, c'est de dire, comme à 27, on ne se mettra jamais d'accord, on se met à 6, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne. On constitue une fédération d'États-nations dans l'Union européenne, agissant comme un seul État, qui aura la majorité qualifiée, qui pourra décider beaucoup plus librement, parce qu'elle pèsera plus que les 21 autres États réunis, et sur un certain nombre de sujets, que ce soit les diplômes universitaires, l'intelligence artificielle, l'énergie, la défense, nous avancerons en commun. Et nous pourrons aller voir M. Xi Jinping ou M. Donald Trump en leur disant « Nous sommes en désaccord avec votre décision. Les 15% de tarifs douaniers sur les biens européens, nous le refusons. Et donc nous, nous vous refusons l'accès à vos produits sur le sol européen parce que ça n'est pas notre intérêt économique. Si vous le faites à 6, unis, parlant comme un seul État, vous serez respecté. Si vous le faites seul, vous ne serez même pas écouté. »
Alors, vous évoquez plein de choses, y compris l'évolution du théâtre européen et du monde, hein, depuis la chute du rideau de fer, donc en novembre 89. Vous évoquez en particulier le débat qu'il y a pu y avoir entre Fukuyama d'un côté et Huntington de l'autre. J'ai noté, vous dites, la seule disparition d'un chef d'État qui vous a fait pleurer, c'est Jean-Paul II. C'est le 2 avril 2005.
Oui, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et dans le fond, il a accompagné ma vie personnelle et ma vie politique. La première fois que je l'ai rencontré, c'était de loin. Je lui ai passé la main. Mais j'étais élève.
Enfant de cœur.
J'étais enfant de cœur.
C'est ça.
Donc, j'étais en aube. Et j'ai vu de loin, j'ai chanté pour le pape Jean-Paul II. Ça devait être en 1980, donc il y a 46 ans.
Il était au Bourget, c'est ça ? Enfin, il était en France.
Il était en France, il était au Parc des Princes.
Parc des Princes.
Et donc je l'ai vu, comme je vous vois, vous, madame, il n'était pas très loin, mais je ne lui ai pas serré la main. Puis je l'ai rencontré ensuite à plusieurs reprises, quand il est venu en déplacement à Paris. Je lui ai rendu visite avec Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, en 2003, au moment où nous sommes opposés à la guerre en Irak. Je l'ai revu ensuite avec le président Jacques Chirac. Et donc, quand vous avez accompagné comme ça la vie d'un homme pendant des décennies, le jour où il meurt, vous dites, voilà, vous perdez quelqu'un. Et par ailleurs, de toutes les figures politiques que j'ai pu rencontrer, celui qui dégageait la plus grande puissance intérieure, c'était Jean-Paul II.
Intérieur ou un mélange d'intelligence exceptionnelle, de compréhension du monde et de spiritualité.
C'est pas l'intelligence seule suffit pas. J'ai plein de gens intelligents. Les gens intelligents sont pas impressionnants.
Donc il y avait une dimension de transcendance.
Il y avait une dimension spirituelle très forte. Des gens intelligents, il y en a plein. Des gens qui dégagent quelque chose d'humain, de spirituel, de très particulier, il y en a très peu. Et il en faisait partie.
Alors, le thème 3, puisqu'il y a trois thèmes dans votre livre, vous êtes là pour le coup, non seulement dans le récit, mais dans le rétablissement, selon vous, d'un certain nombre de choses à dire. Alors, la presse l'a souvent noté, depuis la sortie du livre, c'est en particulier la situation financière de la France. Vous évoquez le fait qu'en 2022, en juin 22, le président Macron vous propose Matignon. Et vous nous faites participer aux allers-retours, aux échanges. On voit un petit peu comment ça se fait d'heure en heure. Et le président vous reçoit. Vous avez eu le temps de réfléchir avec votre équipe rapprochée. Et vous demandez de conserver Bercy, comme on dit, c'est-à-dire le portefeuille de l'économie et des finances, tout en étant à Matignon. Je précise que la seule fois où ça s'est passé sous la Ve République, c'est Raymond Barre, en 1976, lorsque Jacques Chirac claque la porte de Matignon et que Raymond Barre arrive. Il cumule les deux fonctions. Il va avoir Robert Boulin au budget un peu plus tard. Et là, le président vous dit « c'est beaucoup ». Et vous vous dites « c'était trop ». Enfin, c'est pas, vous ne lui dites pas, mais vous l'écrivez. Ça tient à quoi, cette situation? Pourquoi est-ce qu'il vous a refusé Bercy, selon vous? Vous ne le dites pas dans le livre.
Enfin, je le dis dans le livre, parce que c'était trop.
Oui, mais
et que dans l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est un des enjeux majeurs de la gouvernance et de la bonne gouvernance du pays demain, arrêter d'avoir un président de la République qui est Premier ministre. Moi, je vous donne ma conviction. Depuis 20 ans, vous avez des présidents de la République qui sont Premier ministre. Il n'y a pas de président de la République. Premier ministre, c'est celui qui mène la politique du gouvernement, qui s'occupe de la réduction des dépenses, du rétablissement des comptes, la politique éducative, de la politique économique, et qui a les mains dans le cambouis et qui s'assure que tout ça va dans la bonne direction. Président de la République, ce n'est pas ça. Le président de la République, c'est celui qui veille aux intérêts supérieurs de la nation, qui s'assure de la prospérité du pays, du respect de l'État, puisqu'il est chef de l'État, et qui garantit que nous nous intégrons bien dans l'Union européenne, dans la défense des intérêts économiques, militaires de la France. Donc je trouve qu'il y a eu un dévoiement complet des institutions de la Ve. Et ce que je raconte dans ce récit sur cette nomination, c'est exactement ça, c'est une manière de mettre le doigt là où ça fait mal. En 2022, on commence déjà à avoir des comptes qui se dégradent. Donc je suis bien placé, je suis à Bercy, je vois que ça se dégrade. Le président de la République m'appelle un soir à 21h, je dînais avec ma femme Pauline, et il me dit, voilà, écoute, j'ai regardé la situation politique, aujourd'hui c'est toi qui es le mieux placé pour être Premier ministre. Donc je vais te nommer Premier ministre.
Ça, c'est après, pardon, pour bien comprendre, c'est après les législatives de 2022.
C'est après les législatives de 2022, ouais. Où il voit bien qu'il n'y a pas de majorité autre qu'en se rapprochant de la droite. J'en viens, donc il me dit, je vais te nommer à Matignon. Et je fais le point avec mes équipes, je dis, l'un des sujets majeurs, ça va être le rétablissement des comptes. Donc il faut qu'on garde la main sur les comptes publics. Donc je vais le voir pour avoir un premier échange avec lui, sur la manière dont on va concevoir les choses. Je dis, il faut quand même qu'on soit d'accord sur la répartition des tâches. Et je lui dis, l'une des priorités absolues du prochain Premier ministre, c'est de rétablir les comptes publics. Et je pense avoir été lucide sur le sujet, à défaut d'avoir eu les marges de manœuvre pour le faire. Et je lui dis donc, je veux garder la Direction générale du Trésor, le ministère des Finances, pour que le Premier ministre puisse vraiment avoir la main sur les comptes publics, réduire les dépenses, l'imposer aux autres ministres et s'assurer que les budgets sont tenus. Et là, je le raconte parce que ça ne se voit pas, ça ne se raconte pas autrement. Personne n'était d'autre dans la pièce que lui et moi. Je vois à son regard qu'il se dit, mais dans le fond, il est en train de me demander d'abdiquer. Et ça, ce n'est pas possible. Je veux, moi, président de la République, garder la main sur la politique gouvernementale. Et donc, il valait mieux que les choses ne se fassent pas parce que c'est deux conceptions des institutions qui sont irréconciliables. Soit vous avez un président de la République qui a les mains dans le cambouis et qui est en fait un super Premier ministre et qui s'occupe de la gestion des masques, des vaccins et des comptes publics. Soit vous avez un président de la République qui préside et un Premier ministre qui gouverne. Mais on ne peut pas avoir les deux options. Et donc, il valait mieux qu'effectivement, on se dise, finalement, on n'a pas la même lecture des institutions. Donc, comme ça ne marchera pas, il vaut mieux s'arrêter là.
Alors, on va terminer. On vous a un peu moqué, taquiné sur vos talents littéraires en matière de scène un peu haute, comme on dit. Donc je me désespérais d'en trouver une dans le livre. J'ai bien lu minutieusement. Puis page 219 et suivante, j'ai été rassuré. Vous imaginez un dialogue entre vous et la France comparable à celui entre Piccoli et Bardot dans une scène célèbre du Mépris de Godard avec la bande originale de Georges Delerue et le magnifique thème envoûtant de Camille. Qu'est-ce que vous lui diriez à la France si elle était couchée toute nue auprès de vous et qu'elle vous dise « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ?»
Alors, je ne cite pas le texte dans le livre, hein, je vous rassure. Moi, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est que la situation de la France, dans le fond, elle est assez simple. Hein, quand on la regarde avec tout le recul, tout l'amour qu'on peut lui porter, vous tous ici et nous deux sur la scène. Je pense que vous êtes comme moi, vous connaissez bien le pays, vous l'avez fréquenté, vous avez circulé, rencontré des gens, vu les territoires. Tout le monde voit bien à quel point le pays est abîmé. Je pense que ça échappe à personne. Tout le monde voit bien à quel point la France est paupérisée. Ça n'échappe à personne. Tout le monde voit bien les divisions entre les Français. Ça n'échappe à personne. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est lié à la nature de la France et des Français, ou est-ce que c'est lié au modèle économique, social, politique que nous avons choisi depuis 20, 30 ou 40 ans et que nous n'avons pas voulu changer.
Est-ce que vous appelez la monarchie technocratique ?
J'appelle la monarchie technocratique ou le modèle de redistribution, de gratuité, de tout pour tout le monde qu'on a choisi depuis maintenant ou qui nous a été imposé depuis 30 ou 40 ans. Moi, ma lecture, c'est que c'est le modèle qui fait l'échec français et pas la France qui fait l'échec du peuple français. Donc, ce n'est pas des réformes qu'il faut, ça ne sert à rien. C'est de déposer le moteur, il ne marche plus, changer le moteur, avoir un modèle qui soit différent, fondé sur des valeurs différentes, sur des principes différents, le travail, l'autorité de l'État, l'intégration à l'Europe, le respect de la règle partout, pour tous, et qui s'impose à chacun, et qu'à partir de là, le pays redémarrera sans problème. Mais si on se contente, et c'est le mea culpa que je fais dans le livre, parce que j'essaie de comprendre ce qui n'a pas marché, au moment où je vous parle, j'aurais aimé me dire, tiens, je suis encore à Bercy, on a poursuivi la politique économique, on est à 6,5% de taux de chômage, la réindustrialisation est en cours, et le pays sent qu'il peut réussir la révolution technologique qui se passe en Chine, aux États-Unis. Pardon, mais c'est exactement l'inverse. On va dépasser les 8% de taux de chômage, les industries ferment, notre industrie automobile est menacée, et on décroche technologiquement. Donc l'honnêteté, et ce livre va être honnête et sincère, m'amène à dire on a loupé quelque chose. Alors, il y a eu la dissolution, on a fait machine arrière toute par rapport à tout ce qu'on a fait pendant 7 ans, ce n'est pas très malin, mais il y a plus que ça. Il y a le fait que là où les Français attendaient de notre part une transformation complète du modèle français qui est en situation d'échec, on a apporté des ajustements ici ou là. Et donc, le moment est venu de porter cette transformation complète.
Donc, vous êtes candidat à la présidentielle ?
Je suis candidat à défendre mes idées avec beaucoup de force, de plus en plus, parce que j'ai une expérience que d'autres n'ont pas et que je vois avec beaucoup d'inquiétude venir une élection loupée.
Mais pour la réussir, vous êtes candidat ?
Je suis candidat à défendre des idées avec toute la liberté qui sera la mienne.
Et donc, il faut lire, effectivement, Le temps d'une décision dans la collection blanche de Gallimard, quand même.
Exactement.
Merci Bruno Le Maire.
Merci à tous.